Ready for a career in behavioral health? Earn your online degree at Herzing University. Choose from health and human services, psychology, or social work programs. Gain the skills to work, coordinate, and manage nonprofits. Secure a bachelor's in psychology to study mental health or advance your social work career through our online Masters of Social Work. Let us help you become a social change agent. Your future starts now at Herzing University. Text HEALTH to 85109. That's HEALTH to 85109. Or visit herzing.edu.
Allô tout le monde et bienvenue au balado 9-1 Behind the Scene, le balado québécois qui met en lumière le métier des répartiteurs d'urgence. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas parlé. Enfin, on se retrouve. J'avais fait une petite vidéo explicative sur Patreon des raisons du pourquoi j'étais absente durant ces quelques mois. Donc, si vous voulez, vous êtes curieux et vous voulez connaître les réponses, ben vous pouvez toujours aller vous abonner sur le Patreon de 9-1 Behind the Scene. Il y a tellement de choses qui se sont passées là, depuis les derniers épisodes, vous avez même pas idée. Mais ça, regardez, c'est une autre histoire. Puis, notre raison principale pour laquelle on est ici, c'est pour des appels 9-1. Donc, sans plus attendre, commençons. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit spécial sur des gens qui ont fait le 9-1 eux-mêmes pour admettre leur crime. Plusieurs histoires s'y retrouvent, puis entendre la personne avouée peut donner des frissons dans le dos. Donc, comme la plupart des épisodes, il s'agit d'un épisode pour un public averti. Pour le premier épisode, on va commencer avec un appel d'ici, au Québec. Un événement qui est survenu à Sherbrooke le 4 décembre 2017. Le 4 décembre 2017, vers 23h30, sur la rue Bordeaux, dans le secteur de Rock Forest à Sherbrooke, Éric Lavoie ouvre la porte de son domicile. Devant lui se trouve Pascal Gagnon, armé d'un pistolet Smith Wilson de calibre 22. Ce dernier lui tire dessus et Éric Lavoie est atteint de 8 projectiles à la tête et au thorax et en est malheureusement décédé.
Oui, mon urgence, c'est que je viens de tirer Éric Lavoie sur Bordeaux.
OK.
C'est moi qui l'ai tiré.
OK.
Fait que j'attends les policiers, où, là. Moi, j'étais au 51 Gosselin, okay. À Bromptonville.
C'est quoi votre nom, monsieur?
C'est Pascal Gagnon.
Puis, qu'est-ce qui est arrivé?
Mais c'est que ça fait 3 ans, là, qu'il m'a fourré de 37 000 piastres. Puis, en tout cas... Puis j'ai comme pété une coche, là.
OK. Puis vous êtes allé chez lui?
Ouais.
OK. Ça fait-tu longtemps de ça?
Ça fait quelques minutes.
OK. Puis vous l'avez tiré avec quoi?
Avec mon 22 Smith Wesson.
OK.
Puis tout va être dans la petite mallette.
Là, l'arme est où, comme là?
Oh oui, l'arme est rebarrée, là.
Non, comme, OK. Comme êtes-vous seul à la maison?
Non, il y a ma femme qui est ici, là.
Es-tu au courant?
Oui, je viens de dire.
OK.
Non, mais c'est elle qu'on n'entend plus vraiment rien.
OK.
Qu'est-ce qui a poussé Pascal Gagnon à commettre un meurtre aussi froid? J'ai pas beaucoup d'informations sur les personnes en particulier, la victime. Ce que je sais, c'est que Éric Lavoie avait 2 ados de 12 et 15 ans et une femme avec qui il partageait sa vie depuis plus de 19 ans. Il était technicien en informatique, puis les deux hommes se sont rencontrés parce que Éric a formé Pascal, un ancien militaire, puis les deux se sont associés. L'argent était le mobile du meurtre. Pascal a avoué que ça faisait 3 ans qu'Éric lui devait 30 000, mais qu'il savait pas pourquoi il avait fait ça. Il aurait dit en interrogatoire, et je cite, « Je peux même pas dire que c'est une décision. Ça s'est fait, pis that's it. » Par contre, une photo d'une cible avec la photo d'Éric Lavoie a été retrouvée chez lui. Toujours en interro, Pascal a dit qu'il s'était arrêté chez sa tante et chez McDo pour manger un hamburger, puis qu'il n'avait rien fait d'autre. Par contre, à 17h03, il a acheté une caisse de bière au dépanneur Quentin à Sherbrooke. Par la suite, à 19h42, il a fait un achat inconnu au couche-tard du boulevard Bourque, puis encore a été acheté de la bière à 20h33 au dépanneur Morin. Pascal habitait à Saint-François-Xavier de Brampton, soit environ 20 à 25 minutes de chez Éric. on peut conclure qu'il a fait quelques déplacements dans sa soirée. À son arrestation, il avait une canette de bière dans les mains, puis il sentait l'alcool, mais il était bien conscient et coopératif. Cependant, vers 4h du matin en interrogatoire, il a commencé à avoir un mal de tête puis à avoir un moment de confusion. Il a demandé c'est quoi qu'il faisait là. Le policier a répondu qu'il était là parce qu'il avait commis un meurtre. Puis Gagnon a répondu « J'espère que j'ai pas tué ma femme. » Ce à quoi le policier a dit « Non, vous avez confessé le meurtre de Éric Lavoie. » Gagnon a visé qu'il prenait de la médication, puis s'il oubliait d'en prendre, ça pouvait arriver qu'il ait des pertes de mémoire. Le 13 octobre 2020, qui est assez récent, Pascal Gagnon a été déclaré coupable du meurtre au premier degré, puis a été condamné à la prison à vie sans libération de conditionnelle avant 25 ans. Pendant l'appel 911, Pascal Gagnon est calme, mais il semble quand même ébranlé. On entend sa femme pleurer en arrière. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu. C'est plus vers la fin de l'appel. Il précise à plusieurs reprises qu'il ne résistera pas à son arrestation, puis qu'il va être assis dans les marches avec le coffret de l'arme barré dedans. Au début de l'appel, Gagnon avoue tout de suite qu'il a tiré sur Éric Lavoie sur la rue Bordeaux. La répartitrice, elle demande « Il est où? Puis c'est quoi son nom? » Cependant, elle ne demande pas l'adresse complète où le crime a été commis. Peut-être qu'on n'a juste pas accès là, à cette partie-là de l'appel aussi, là, ça se peut très bien. Par la suite, elle demande qu'est-ce qui s'est passé, puis s'il est allé chez la victime et ça fait combien de temps que ça s'est passé. Question importante, elle demande, elle est où l'arme? Elle demande c'est quoi qui a déclenché tout ça ce soir, ce qui est une excellente question pour essayer de comprendre ce qui a mené à ce geste. Elle lui a dit de rester en ligne puis qu'elle allait le voir. C'est probablement pendant ce temps-là qu'elle donne son appel au policier puis qu'elle parle au policier. Son questionnement il est bon puis elle reste super calme. Le fait que lui reste calme doit probablement aider aussi parce que si quelqu'un t'appelle en panique en disant qu'ils viennent de commettre un meurtre, c'est sûr que toi, ça te met dans un autre état d'esprit. La répartitrice semble pas quoi dire vers la fin, puis son ton semble moins empathique un petit peu d'un coup qu'elle a compris ce qui se passait. C'est un peu normal quand on réalise que la personne à qui on parle a enlevé la vie d'un autre humain, j'imagine. La prochaine histoire s'est passée au Texas. Il s'agit de celle de Deborah Janelle Jeter et de ses deux adolescents. En mai 2009, Lester Lee Jeter a mentionné à sa femme Deborah qu'il voulait se séparer. Par contre, Deborah était dévastée. Tellement dévastée qu'elle a fait une tentative de suicide dans leur maison de Hillsboro pendant que ses deux enfants étaient à l'intérieur de la maison. À la demande de Lester, Deborah fut emmenée à l'hôpital psychiatrique de DePaul où elle a pu recevoir des traitements appropriés. Lester Lee a signé les papiers de divorce puis a eu la garde temporaire de ses filles Kelsey, 12 ans, et Kirsten, 13 ans, avec une interdiction d'entrer en contact pour Deborah. Il craignait la sortie de Deborah puis voulait s'assurer que ses filles étaient en sécurité. Les jours ont passé, puis Deborah démontrait plus de signes de dangerosité envers elle-même ni les autres. Elle a donc pu avoir son congé de l'hôpital, puis le juge a décidé d'enlever l'interdiction de contact avec ses filles puisqu'elle se portait mieux. Lester était même d'accord parce que Deborah n'a jamais montré d'agressivité envers ses enfants puis elle les a jamais mis en danger auparavant. Ça faisait 14 jours que les filles n'avaient pas vu leur mère, puis elles étaient vraiment excitées de la voir. Même que Kelsey a écrit sur MySpace « Je vais voir ma mère demain, yay! » Le lendemain, soit le 5 juin 2009, aussitôt qu'elle est sortie de l'hôpital, Deborah est allée chercher ses filles, puis elle leur a dit qu'elle avait une surprise pour elles. Les filles étaient super heureuses, mais loin de se douter de ce qui les attendait. Deborah, Kelsey et Kirsten se sont rendues dans une maison abandonnée, puis 3 heures après avoir été chercher ses enfants, Deborah Jeter, d'un calme glaçant, a composé le 911.
911, what's your emergency?
I just killed my children.
Excuse me?
I just killed my children.
Where are you?
I'm in the abandoned house on Highway 77 right after you go underneath the highway. One of them's still alive. Hurry.
How? Under what highway? You're on Highway 77 where?
I'm on Highway 77 right after you go under 35 going towards Milford. Get an ambulance out here to save the one that didn't die. Come on.
What's your name?
Bitch, call them. Have you already called them?
Yes, ma'am, I have.
Okay.
I need your name.
I don't want to tell you my name.
Hello?
Hello.
Are you still there?
Yes, I'm still here.
Je vais arrêter ici. Je vais continuer après, là, mais c'est juste pour vous dire que je sais qu'il y a des longueurs dans l'appel, mais je trouve que ça représente bien tout le travail qui peut se faire en arrière. Oui, les répartiteurs, ça se peut qu'il y ait des silences pendant qu'on travaille en même temps. C'est qu'on est des pieuvres, puis on fait tellement de choses en même temps que ça se peut qu'on ne vous parle pas pendant quelques instants au téléphone. Mais je trouve aussi que ça démontre bien. On peut parler aussi aux policiers en même temps, puis ça, on l'entend d'habitude, en tout cas chez nous. Quand on parle sur les ondes radio, ça coupe le son pour les appelants. Donc, eux, ils ne nous entendent pas parler à la radio. Mais de la façon que c'est fait là-bas, ben, j'imagine que tu peux quand même entendre. Donc, des fois, ça peut être confusant de savoir à parle-tu à la plante ou au policier, mais on peut le percevoir là, quand elle a la voix un peu plus reculée, c'est qu'elle parle au policier, mais je sais que c'est pas évident. Je vais tout vous expliquer après.
You need to.
I know, I understand that. I want.
With my hands up.
She stayed.
My house, both hands up, except for one, because I'm on the phone. They're coming.
She's got her hands up, except for the fact that the one that she's on the phone with. So she's out in the yard. She says she's out in the yard beside the house.
Okay, goodbye. I see them. They're out here. Goodbye.
Debra a poignardé ses deux filles avec un couteau. Elle se serait attaquée à Kirsten, la plus vieille, tandis que celle-ci aurait crié à sa sœur de partir en courant. Debra aurait relâché Kirsten et se serait attaquée à Kelsey. Petit trigger ici, Debra avait tranché la gorge de ses filles. Kelsey a décédé sur place et Kirsten a survécu à l'attaque de sa mère. Elle a été grièvement blessée, puis transportée en hélicoptère à Dallas, où elle a été opérée d'urgence. Elle aurait aussi subi de multiples coups de couteau dans son dos en tentant de protéger sa sœur. En mai 2010, Debra Janelle Jeter a plaidé coupable pour meurtre au premier degré et tentative de meurtre. Elle a obtenu une sentence de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour l'appel 911, je sais que plusieurs d'entre vous ont probablement pogné les nerfs pour ceux qui l'ont écouté au complet. Elle était clairement sous le choc au départ, la répartitrice. On peut entendre qu'elle pose les questions principales. Debra semble calme dans la mesure du possible. Elle est quand même très, très impatiente d'avoir les secours. Elle dit qu'elle a tué ses enfants, puis il y en a une de vivante encore, fait qu'elle veut être sauvée. Mais c'est pas tant elle qui veut sauver sa propre fille, c'est plus sa fille qui veut être sauvée. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Elle traite même la répartitrice de bitch à un moment donné, puis elle veut jamais dire son nom. À la fin, on peut entendre une voix lointaine qui est celle de Kirsten. Je sais pas si vous l'avez entendue. La répartitrice, elle expliquait à Debra que quand elle allait voir les policiers, il fallait qu'elle sorte puis qu'elle lève ses mains dans les airs. On peut même entendre les sirènes de voitures de police, puis Debra sort en levant les mains, puis raccroche le téléphone. Debra finit par dire qu'elle avait voulu tuer ses filles pour ne pas qu'elles aient à vivre le divorce de leurs parents. C'était tout pour la deuxième histoire. Le prochain cas est celui de Cameron Rogers, un homme de 22 ans qui a composé le 9-1 à Montréal après avoir commis un double meurtre. Dave et Meryl Rogers ont adopté Cameron lorsqu'ils étaient dans la quarantaine. Dave était un journaliste pour le journal d'Ottawa et avait consacré sa vie à sa carrière. Meryl était dans les forces, puis elle a été l'une des premières femmes qui a complété le cours de combat de l'emploi de la force. Le couple s'est marié 3 ans après s'être rencontrés, puis ils ont beaucoup voyagé. Ils aimaient surtout la France, puis ils sont allés plusieurs fois. Ils ont toujours voulu avoir des enfants, mais malheureusement, ils ne pouvaient pas concevoir naturellement. Ils se sont inscrits pour l'adoption, puis c'est en 1994 qui ont adopté un nouveau-né du nom de Cameron. Les gens autour pouvaient voir que David et Meryl consacraient leur vie à Cameron puis qu'ils étaient très aimants. À l'école, Cameron avait de la difficulté puis a été diagnostiqué avec un spectre de l'autisme et un TDAH. Cameron a une enfance heureuse, remplie de voyages et d'amour. À la fin de son secondaire, Cameron savait toujours pas ce qu'il voulait faire dans la vie comme métier, puis ça l'embêtait vraiment beaucoup ses parents. Ils l'ont convaincu assez vite de s'inscrire au collège en ingénierie mécanique, parce qu'ils voulaient son bien, puis parce qu'ils voulaient que leur fils ait la chance d'avoir un brillant avenir. De l'autre côté, Cameron voyait ça comme du gros contrôle. Il croyait que ses parents l'avaient obligé à s'inscrire dans le seul but de le contrôler. Il voulait aussi se trouver un travail pendant qu'il était aux études pour avoir un peu d'autonomie, mais ses parents lui ont plutôt proposé de faire des tâches à la maison qu'il allait le payer s'il allait en avoir besoin. Il voulait juste que leur fils se concentre dans ses études. Cameron se sentait de plus en plus envahi, puis contrôlé par ses parents. Des études qu'il n'aimait pas. Puis aucun contrôle, j'ai étudié le mot contrôle, voyons. Aucun contrôle sur son revenu. Le ressentiment que Cameron avait à l'égard de ses parents ne fait qu'augmenter avec le temps. Dave Rogers, 69 ans, et Meryl Rogers, 63 ans, ont été tués le 29 novembre 2016 à leur résidence sur l'avenue Appledorn dans le quartier Carlton Heights à Ottawa. Le 20 novembre 2016, les Rogers avaient été invités à une fête en après-midi, mais ils ne se sont jamais présentés. Des amis de la famille ont essayé de les appeler, mais il n'y avait aucune réponse. La famille était assez discrète en général, donc ça n'a pas alarmé personne. Même si c'était pas dans leurs habitudes de dire qu'ils allaient aller à quelque part puis de pas se pointer finalement. 9 jours. 9 jours ont passé, puis un appel qui a été fait au 911 à partir du centre-ville de Montréal.
Hello. I would like to confess to a murder.
Okay. Well, so where are you?
I'm on a street, in Montreal. I don't know where that street is.
Well, you need to know if you want me to send somebody.
Yeah, that's true, Wayne. I'm near a parking garage.
Okay. You need to be more specific. I need an address, one intersection.
I'm going to find a street name. An address. Oh, that might work. How is my phone? 1731 Mikado? Does that work?
What's the name of the street?
Mikado?
How do you spell it?
M-I-K-A-D-O.
It doesn't exist, sir.
Oh, well, I just read a sign on the house. I'm going to go up to the corner of the street to see the street name.
And who did you kill?
My mom and dad.
Okay. Where do they live?
They live in Ottawa.
They live in Ottawa?
Yes, sir.
Okay. Do you have an address?
1614 Appledorn. That's.
How do you spell the street name?
1614 and then A P E L D O O R N.
Okay. What's your name?
My name is Cameron. Cameron Rogers.
How old are you?
I'm 22.
22.
Here's the street. Ontario and Savoie.
Okay. Are you gonna stay on the corner?
Yes, sir.
Okay.
I will stay.
What are you wearing? The clothing.
I'm wearing an orange puffy coat and orange mitts with jeans.
Okay. So orange coat and you're 22. Okay.
Yes. And I have a hoodie on. A hood.
Okay. What color are you, D?
Huh?
What color are you, D?
What?
Your shirt is what color?
Well, the shirt is orange and the hoodie is blue.
Okay, so your jacket is orange and the hoodie is blue?
Yeah.
Okay, I'll send somebody to go and talk to you and just see what's going on, okay?
Thank you.
Okay, bye.
9 jours auparavant, soit le matin du 20 novembre, Meryl préparait le plat qu'elle allait apporter à la fête. Elle aurait demandé à Cameron de l'aider à couper du melon d'eau, puis il aurait accepté même si ça lui faisait pas plaisir, mettons. Il y avait une chicane la veille, puis il était encore fâché après ses parents. Donc Cameron a pris le melon, puis la planche pour couper, puis il a commencé à couper le melon d'eau. En regardant le couteau qu'il avait dans les mains, il a commencé à avoir des idées. S'il tuait ses parents, il pourrait plus le contrôler. Après quelques minutes, Cameron est allé dans le garage pour aller chercher un pieu, puis il est retourné à la cuisine où il a poignardé sa mère dans le dos. David, qui a entendu sa femme hurler, s'est précipité dans la cuisine où il a trouvé Cameron debout au-dessus de Meryl qui était tombée par terre. Cameron s'est empressé vers son père et il a enfoncé le pieu dans le sternum de David, ce qui a perforé ses poumons. Cameron a pris deux couteaux, une dans chaque main, puis il s'est mis à poignarder ses parents un à tour de l'autre. Après quelques heures, Meryl était toujours en vie, puis elle gisait sur le plancher dans une mare de sang. Cameron avait décidé d'aller attendre qu'elle meure dans une autre pièce parce qu'il ne voulait pas voir sa mère souffrir, parce qu'il ne supportait pas qu'elle souffre, même si c'était de sa faute, mais il pouvait rien faire, donc il a voulu s'isoler. C'est à ce moment-là que le téléphone a commencé à sonner chez les Rogers. Cameron a répondu au premier appel, qui était son nom Graham, puis il a demandé à parler à sa sœur. Cameron lui a répondu qu'elle était malade. Il a ensuite attendu que sa mère meure, puis a disposé des corps dans le jardin. Il a ensuite nettoyé la cuisine, puis jeté les couteaux dans la poubelle du garage. Il a passé une semaine dans la maison après les meurtres. Il était dans sa chambre la majorité du temps, puis il sortait juste pour manger. Après une semaine, Cameron a pris l'argent de sa mère puis a pris un billet d'avion pour aller à Montréal. Arrivé à Montréal, il a ensuite acheté un billet pour aller à New York, mais arrivé aux douanes, il a dit qu'il voulait aller aux États-Unis puis les douaniers lui ont donc demandé un visa, ce qu'il n'avait pas. J'imagine qu'il disait qu'il voulait aller vivre aux États-Unis, c'est pour ça qu'ils ont demandé un visa. Donc, il est reparti marcher dans les rues de Montréal puis ne sachant pas trop quoi faire, il a décidé de faire le 911 à 21h15 parce qu'il était fatigué puis il ne savait pas où aller. Quand les policiers sont arrivés à l'adresse à Ottawa, ils ont découvert les corps de Dave et Meryl Rogers décédés. Le corps avait été déplacé en arrière d'un cabanon à l'extérieur. Le corps de Dave avait été placé dans une valise et celui de Meryl en dessous d'une bâche. Les deux corps étaient gelés. La police a arrêté Cameron puis l'ont accusé de meurtre au premier degré. Il a été interrogé le lendemain et l'interro est disponible en entier sur YouTube. Je vais vous mettre un lien dans la description. Cameron Rogers a été accusé des deux meurtres au premier degré puis a plaidé non coupable, défendant que ce fut sur un coup de tête et que son spectre de l'autisme ne lui faisait pas réaliser l'ampleur de son geste. Quand le procès a commencé, Cameron a avoué à son avocat que son père l'avait abusé sexuellement quand il était jeune, ce qui s'est avéré être faux quelques jours plus tard, puis le procès a enfin pu avoir lieu. Cameron a finalement plaidé coupable pour les deux meurtres au second degré de David et Meryl Rogers. Il a écopé d'une sentence de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans. L'appel 9-1. Là, je dois avouer que j'ai reconnu le ton qu'un répartiteur peut avoir quand il est préoccupé ou qu'il peut être blasé de son... Je veux pas dire blasé, parce que peut-être pas le bon mot ici, là, je vais pas parler en mal d'un conflit. Frère, je trouve que c'est un peu négatif, mais le répartiteur il a quand même fait son questionnement, puis il a poussé Cameron à lui donner une adresse ou une intersection, puis les policiers ont pu aller à sa rencontre sans problème. Malheureusement, je sais pas si c'est le stress, ça se peut là, ça se peut que ce soit le stress, on peut sentir comme un manque de patience et ou d'empathie de la part du répartiteur. C'est comme s'il croyait pas. Ça me fait penser à l'histoire un peu du petit garçon qui a crié au loup. Tu sais, des fois, t'as tellement d'appelants qui ont pas nécessairement une bonne santé mentale, puis qui appellent pour dire des choses comme ça, mais qu'au final, il se passe rien. Il faut faire attention parce que même si on a une journée de crotte, puis que les citoyens nous envoient promener à grands coups de va chier, ou que notre blonde ou notre chum nous a laissé, ben, faut jamais assumer. Pas meilleur, non plus, là. C'est pas ça que je veux dire. Ça m'est déjà arrivé de perdre patience en pensant que demandeur, il était pas coopératif, mais que dans le fond, il y avait un problème cognitif ou quelque chose comme ça. Je me suis sentie super mal après. La personne, elle venait pas de me confesser un meurtre, on s'entend, là. Mais ça revient à ce que j'ai déjà dit dans un autre épisode. On reste des humains. On a des émotions, comme tout le monde. C'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. J'aimerais la terminer en ayant une petite pensée pour les victimes. Donc, Eric Lavoie, Kirsten Jeter, Kelsey Jeter, David et Meryl Rogers. Merci d'avoir été là. Si vous voulez encourager le podcast, ce serait super gentil, tellement généreux de votre part, de laisser une belle note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, que ce soit des étoiles, des commentaires, vous m'aideriez vraiment, vraiment, vraiment. Puis pour ceux qui veulent toujours plus, ben vous pouvez vous abonner au Patreon. Il y a juste un tierce. C'est moins cher qu'un café Starbucks. J'ai entendu cette phrase-là dans le podcast de Côté sombre. Et ils ont totalement raison. Donc, vous pouvez vous abonner au Patreon. Vous avez des épisodes en avance, dont accès à tous ceux qui sont sortis jusqu'à maintenant, des inédits et des vidéos. Passez une bonne semaine, puis on se reparle très bientôt. Bye!
American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.